destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Aujourd'hui, RJFM vous emmène dans l'ouest de l'Allier et plus précisément à la découverte de la cité médiévale de Montluçon. Et puis, dans un second temps, au musée des musiques populaires, le MUPOP, un musée interactif à Montluçon. Allez, c'est parti pour une balade au sein de la cité médiévale de Montluçon, avec en son centre le château des Ducs de Bourbon. Julie Besançon, animatrice à l'Office de tourisme de Montluçon, Vallée du Cœur de France.
Bah, la cité médiévale, c'est vraiment le cœur historique de Montluçon, hein, puisque la ville, elle s'est essentiellement développée au Moyen-Âge. Autour du château, on a un magnifique château qui surplombe la ville, qui en hauteur, c'est vraiment l'emblème de la ville. Les constructions se sont faites à partir du 12e, 13e siècle autour de ce château. Et puis on avait une très belle cité médiévale avec une quarantaine de tours pour protéger la ville et quatre portes d'entrée seulement. Voilà. Donc aujourd'hui, il reste quelques vestiges de cette muraille, mais on a aussi de très belles maisons et de très beaux édifices qui sont classés. Le premier château, il date du 10e siècle. Au 13e siècle, on avait déjà un château en pierre. Il y a des vestiges qui ont été retrouvés. Le château qu'on peut voir aujourd'hui, il date de la reconstruction de Louis II de Bourbon, donc 14e siècle. Alors le château, il se visite partiellement, puisque pendant les visites guidées, on peut prendre de la hauteur. On monte jusqu'au sommet du donjon. Là, on a une vue à 270 degrés sur la ville. Donc c'est vraiment un point de vue assez surprenant, assez unique. Et puis il y a des expositions aussi qui sont organisées au rez-de-chaussée du château. Donc c'est une autre façon de le découvrir.
Je continue ma balade dans la cité médiévale et je découvre la place Saint-Pierre, un des plus vieux quartiers de Montluçon.
Alors bah, c'est certainement la plus emblématique en fait de la cité médiévale, avec une magnifique église romane qui est classée un monument historique, donc qui est vraiment très très caractéristique de l'art roman auvergnat, et puis aussi un petit peu de nos voisins Berrichon, hein, puisqu'on est juste à côté. On a aussi une belle fontaine, la fontaine au lion. Alors là, la fontaine au lion, c'est une fontaine magique, hein, puisqu'elle porte bonheur, l'eau de cette fontaine. Hein, donc moi je vous invite vraiment à venir, à passer les mains sous le filet d'eau et à mouiller le nez des lions, puisqu'on dit le nez des lions tu mouilleras, bonheur toute l'année tu auras.
Un petit mot sur cette église.
On a le blason, alors qui était le blason des Ducs de Bourbon, juste au-dessus du portail. Et puis bon, bah, la Révolution est passée par là. Comme pour la maison des 12 apôtres, voilà, on a perdu quand même quelques sculptures qui étaient là et qui faisaient aussi le charme de cette cité.
Maison des 12 apôtres, pourquoi 12 apôtres?
Mais justement, puisque sur les montants en bois en fait, hein, de la maison, on avait des sculptures, 12 sculptures qui représentaient les 12 apôtres, avec à l'angle, on voit encore une très belle niche qui, elle, abritait le Christ. Et la Révolution étant passée par là, toutes les sculptures en bois ont été arasées, mais on arrive quand même à distinguer un petit peu la présence de ces personnages.
Juste à côté, je fais une pause au sein du jardin Wilson et je découvre le buste de André Messager, compositeur montluçonnais.
Exactement, André Messager, alors qui est un personnage illustre, hein, de notre cité, puisqu'il a été auteur-compositeur, il a composé beaucoup d'opéras et d'opérettes, et il a notamment dirigé l'Opéra de Paris, donc c'est quand même pas rien. Et là, il se trouve tout naturellement dans le jardin Wilson, donc il regarde la fontaine, il est dans ce havre de paix, et juste à proximité du MUPOP, donc le Music Museum.
MUPOP ? Tiens donc, partons à la découverte de ce musée des musiques populaires inauguré il y a quelques années par Michel Polnareff. Deux parcours sont proposés, instrumental ou musical. Découvrons ce dernier avec le conservateur du MIPOP, Éric Bourgognon.
Alors le concept de ce musée, je dirais que c'est d'abord une très grande originalité, puisqu'on est le seul musée en France et en Europe à aborder la question de l'histoire des musiques populaires. Alors ce qu'on appelle musique populaire, je dirais que c'est la musique de l'éternelle jeunesse, c'est-à-dire que c'est ces musiques qui succèdent, qu'on utilise et qu'on apprécie quand on est jeune, et notamment dans un cadre festif et très souvent dansant. Autrement dit, c'est les musiques qui ont fait danser toutes les générations depuis quelques siècles. Le parcours du MUPOP est composé de deux parcours, dont ce qu'on appelle le parcours musical, où on va de répertoire en répertoire. Donc on commence à la fin du XVIIIe siècle, et ici effectivement on est dans le bal, qui est vraiment une section centrale pour nous dans le musée. Alors le bal en France, évidemment, c'est le bal musette, qui aura une très longue popularité, d'à peu près une soixantaine d'années, ce qui est assez extraordinaire. Et ce bal, il va être comme les autres répertoires, poussé par une nouvelle musique des jeunes qui arrive cette fois-ci des États-Unis et d'Angleterre, qui est évidemment le rock'n'roll à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc c'est ça le scénario du musée, c'est un répertoire qui en pousse un autre parce qu'une génération en pousse une autre.
Alors nous sommes donc dans la génération en plus années 60 avec un hommage au golf Drouot.
Oui, alors on est effectivement dans une salle, dans un espace qui est vaste et qui est consacré à un phénomène majeur pour la musique populaire française et internationale, c'est l'arrivée du rock'n'roll et des guitares électriques. Alors ce rock'n'roll et ces guitares électriques, on les aborde de différentes manières. D'abord il y a des jukebox et scopitone interactifs qu'on peut utiliser soi-même et écouter nombreux morceaux de rock et de musique yéyé. Il y a évidemment un mur de guitare électrique et puis il y a effectivement un espace consacré au golf Drouot, puisque en France tout presque est parti de là, c'est la première salle de rock en France, et on a rassemblé là des photographies et surtout les objets originaux du golf Drouot, les micros, les ardoises, etc., venant directement du golf Drouot. Et puis ce rock'n'roll, on le représente également, puisque c'était à l'époque la musique des jeunes, ça correspond à l'arrivée d'une nouvelle génération, d'une nouvelle classe d'âge dans la société française, on le représente sous la forme d'une chambre d'adolescent du début des années 60, qui a sa guitare, son transistor, qui est vraiment l'élément majeur, aussi important pour les jeunes de cette époque-là que le portable pour les jeunes actuellement. Donc voilà, on explique là vraiment dans cette séquence, qui est une séquence pour nous de basculement, le phénomène à la fois musical, qui a été le rock'n'roll, et phénomène de société.
Alors là, on vient de passer par les années 70, c'est bien ça, Woodstock.
Voilà, alors évidemment, autre phénomène musical fondamental dans ces années-là, c'est ce qu'on appelle la pop music. Alors cette pop music, c'est en fait un ensemble de répertoires quand même extrêmement variés, mais qui ont comme point commun, en gros, de tester le son électrique, d'expérimenter le son électrique. C'est-à-dire le rock'n'roll s'en sert pour amplifier le son, mais il n'y a pas un travail du son électrique. Là, au contraire, c'est l'expérimentation du son électrique, alors principalement par la guitare électrique. Et évidemment, celui qui a mené le plus loin ces expérimentations est bien connu, c'est Jimi Hendrix. Voilà, c'est d'ailleurs son groupe s'appelait Jimi Hendrix Experience. Voilà, ça veut tout dire. Donc c'est lui qui a été le plus loin dans cette direction en utilisant les Larsen, les saturations, etc. Mais on voit bien cette expérimentation en cours. Et puis l'autre caractéristique de cette période de la pop qu'on voit bien dans le musée, c'est ces premiers rassemblements énormes. On a fêté l'an dernier les 50 ans de Woodstock en 69. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, tous les historiens reconnaissent que c'est aujourd'hui un des grands événements du XXe siècle.
On poursuit avec, on avance dans les années en fait, avec les années 80 et l'arrivée des synthétiseurs, tiens par exemple.
Voilà, alors les synthétiseurs, on les trouve déjà dans la décennie précédente, dans les années 70, mais c'est vrai que leur emploi se généralise à la fin des années 70 et au début des années 80. Et pour nous, c'est évidemment un pan de collection important, ces synthétiseurs. Alors, on les trouve notamment en France, on a un espace là consacré au disco, qui a été évidemment un répertoire extrêmement populaire à la fin des années 70, et en France, effectivement, c'est le disco qui intègre les synthétiseurs, et notamment Céron, avec Supernature, là, dont on voit le clip et la grosse batterie disco. Donc voilà. Mais dans ces années-là, c'est aussi les débuts du rap, du hip-hop, c'est aussi le grand retour du rock. Il faut dire rock alternatif, punk rock, hard rock, etc. Donc toutes ces tendances sont présentes dans cet espace où nous sommes ici dans le musée.
Plus d'infos sur le MUPOP sur le site mupop.fr. Notez l'expo temporaire à partir du 3 août prochain sur Les briques Lego font leur cinéma en musique.
C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.